avec Jésus dans le désert. Et aujourd'hui, c'est le vrai sens du sacrifice, de l'épreuve, qui nous est donné à méditer avec les trois lectures de ce dimanche, si on prend l'année Saint-Marc, c'est-à-dire que nous avons comme évangile, je pars de la fin, nous avons comme évangile l'évangile de la transfiguration, nous avons le témoignage de Saint-Paul qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il n'a pas épargné, il n'a pas refusé son Fils unique, et qu'ainsi Dieu nous donne tout. Donc c'est un Dieu très généreux que saint Paul a découvert, en particulier sur le chemin de Damas. Et alors, la première lecture est très étonnante, puisque nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 22e, l'épreuve d'Abraham, à qui Dieu demande d'offrir son fils Isaac en holocauste. Nous lisons normalement cette lecture pendant la nuit de Pâques, la vigile de Pâques, mais elle est au milieu de six autres lectures, plus saint Paul, plus l'Évangile, plus les baptêmes, plus les bénédictions. Bref, on a souvent peu d'occasion de s'arrêter à ce texte, et tous les trois ans, le deuxième dimanche de Carême de l'année Saint-Marc, il nous est proposé de le lire. Donc je vais m'y attarder un petit peu. Ça fait un programme tout à fait considérable, puisque avec Jésus transfiguré, nous avons Moïse et Élie. Il faudra se demander qu'est-ce qu'ils font sur la montagne de la transfiguration, pourquoi sont-ils dans la lumière et comment repérer. Ce sont des êtres lumineux, alors que ce n'est pas a priori évident dans les textes lus. Et donc Moïse, Élie, Abraham. La semaine dernière, c'était Noé. Oui, ça fait beaucoup de personnages. Je vous rappelle que lorsque Notre-Dame ouvrira sur l'allée de la promesse au nord de la cathédrale, les sept chapelles reprendront les titulatures de ces grands personnages. Donc c'est aussi un peu pour préparer ces pèlerinages à Notre-Dame et la revisitation de l'histoire du salut qu'il nous est proposé de faire ces méditations. Alors, comment se termine l'évangile de ce dimanche? Donc Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, et là il est transfiguré. Le verbe officiel, le verbe grec, se comprend très bien en français, et peut-être mieux que transfiguration, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est l'idée de métamorphose. Jésus a été métamorphosé. Alors, je ne sais pas ce que vous évoque l'idée d'une métamorphose. Moi, je pense à la chrysalide qui devient papillon. Je crois que c'était les cours de CM1 quand j'étais petit, et je trouvais fascinant l'idée d'abord cette espèce de ver de terre, voyez, et puis qui devient chrysalide, et puis qui tout à coup, on dirait une plante, et puis tout à coup, qui s'envole. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Mais c'est un miracle, enfin c'est pas un miracle, c'est une transformation très naturelle pour des êtres extrêmement fragiles, et il nous est dit que Jésus a été métamorphosé. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on se dit, tiens, il y a quelque chose de très positif. Oui. Alors il voit Jésus dans la lumière, et puis il y a deux hommes qui parlent avec lui, donc c'était Moïse et Élie. Qu'il lui parle de son exode qu'il doit accomplir à Jérusalem, et c'est certainement l'idée du chemin de croix, qui est à prendre aussi comme une... c'est pas une punition, et c'est pas simplement une épreuve, et c'est un passage pour arriver à un état nouveau. Alors ils les entendent parler, et puis ils sont terrorisés, voyez, devant cette lumière, et puis tout à coup, comme le spectacle, les lumières s'éteignent, et Jésus est de nouveau tout seul, tel qu'il était monté avec eux, tel qu'ils le connaissent depuis déjà 2 ans peut-être, 2 ans et demi. Oui. Et alors il leur dit, n'en parlez pas avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et alors, soyons bien attentifs, le passage se termine ainsi. Ils observent cette consigne tout en se demandant « Mais qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts ?» La question est une question directe. Et voyez-vous, mes amis, et moi le premier, le carême nous conduit vers Pâques. On croit savoir ce qu'est ressuscité d'entre les morts, mais comme dit saint Augustin à propos d'une question assez simple comme la question du temps, comment le temps passe, saint Augustin dit « Tant qu'on ne pose pas la question, j'ai l'impression de comprendre. Mais si on me pose la question « qu'est-ce que le temps ?», je m'aperçois que je ne sais pas bien répondre. La résurrection, vous et moi, je pense que nous confessons ce mystère, cette confession de foi, comme dirait ma mère, la tête sur le bio, s'il le faut, et c'est le cœur de la foi catholique. Mais si à la sortie de l'Église, quelqu'un me demande « vous croyez dans la résurrection des morts ?» Oui, qu'est-ce que c'est ? Ben, je suis bien embêté. Oui. Qu'est-ce exactement que la résurrection d'entre les morts ? Et j'insiste, d'être embêté, c'est pas forcément un mauvais signe. C'est une bonne expérience d'être un peu gêné pour bien dire ce que Dieu nous révèle. Parce que si la révélation vient de Dieu, c'est pas simplement 2 et 2 font 4. C'est pas la peine que le Verbe se fasse chair pour nous dire des choses que l'on sait déjà. Donc quand Dieu parle, il nous dit des choses étonnantes. Je n'en veux pour preuve que l'admiration de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour toutes les découvertes qu'elle fait au fur et à mesure, pour une carmélite quand même si elle est morte très jeune, n'empêche que qu'est-ce qu'elle a découvert, avancé, progressé, comme quoi s'adapter à la parole de Dieu n'est pas du tout évident. Et dans saint Marc, que nous lisons cette année, c'est une pédagogie qui est très heureuse. Je dis bien heureuse, qu'est-ce qui est heureux ? Ben, c'est de ne pas comprendre tout de suite. C'est de ne pas mesurer exactement ce qui est en train de se passer, tellement c'est grand. On est un peu comme des chouettes ou des hiboux qui regardent le soleil. Ben, on ne peut pas. Il faut mettre la main devant les yeux. On est ébloui, voyez, par tant de lumière. Et c'est naturel, c'est bon, c'est une belle image, c'est un bon signe. Alors, la nuit de Pâques, nous allons lire, comme ce dimanche, nous allons lire le sacrifice d'Abraham et d'Isaac, mais nous allons lire aussi le récit de la résurrection de Jésus dans l'évangile de saint Marc. Et donc les femmes, au petit matin, vont au tombeau. Elles voient que la pierre a été roulée, la porte est ouverte. Elles voient un jeune homme assis tranquillement, habillé de blanc, qui leur dit « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Allez prévenir les apôtres. » Et dans saint Marc, que font les femmes ? Elles sortent en courant pour aller annoncer la bonne nouvelle ? Pas du tout. Elles sont terrorisées et ne racontent rien à personne. Fin de l'Évangile dans sa première mouture que nous lirons cette année. C'est-à-dire que les femmes au tombeau sont racontées comme incapables de rendre compte de l'événement qui vient de leur être annoncé par ce mystérieux personnage. Et de fait, que Jésus ne soit pas dans le tombeau ne les aide pas. Et donc il y a quelque chose de tout à fait incomparable. C'est une sorte d'énigme en même temps que c'est la clé de l'Évangile. Et si vous vous souvenez du début de l'Évangile qu'on a lu au mois de janvier et février, après l'Épiphanie et avant le début du carême, on voyait bien que quand Jésus fait des miracles, quand il raconte des paraboles, quand il choisit les 12, vous voyez, et même la transfiguration, ça ne peut pas être raconté sans l'événement de la résurrection d'entre les morts. Je prends un exemple. Jésus fait des miracles. Et le dernier dimanche avant le carême, c'était le coup du lépreux. Vous voyez, Jésus rencontre un lépreux, il commence à se fâcher. Et Jésus se met en colère contre ce pauvre lépreux et lui dit avec sévérité, une fois qu'il est guéri, ne raconte rien, va te montrer au prêtre. Et lui, comme un imbécile, raconte n'importe quoi. Vous voyez, pourquoi Jésus n'est pas content? Parce que ce que Dieu lui demande, ce n'est pas tellement de guérir comme ça une personne sur les milliers d'autres qui étaient malades. Mais ce que Dieu veut, c'est d'arriver au sens même de ce que représente une maladie. Les maladies ont toujours une sorte de symbolique. Et, par exemple, un aveugle représente ceux qui n'arrivent pas à croire. Un paralysé représente ceux qui n'arrivent pas à marcher dans la loi de Dieu. Un lépreux représente tous ceux qui sont exclus, qui sont chassés de la communauté. Et Jésus, quand il guérit un lépreux, un aveugle, un paralysé, non seulement il fait du bien physiquement à telle ou telle personne, mais ce sont des cas individuels, mais il nous fait comprendre qu'il faut réintégrer ceux qui sont exclus. Il faut aider ceux qui n'avancent pas à avancer sur le chemin de la paix, de la justice, du droit, de la bonté. À ceux qui ne croient pas, pour des raisons qui sont souvent tout à fait raisonnables, comment on peut déchiffrer un sens plus profond à notre existence? Il n'y a pas que les apparences, il y a la réalité, il y a la vérité. Et voyez-vous, Jésus n'est pas content dans l'Évangile, parce que si on ne voyait que le côté un peu magique, le côté un peu de puissance de Jésus, ben, on ne serait pas très avancé, ou alors même on serait trompé. On voudrait se dire, ah, si on est un bon chrétien, un bon disciple, on doit pouvoir faire des miracles. Jésus fait des miracles, et ben moi aussi je vais en faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quelquefois, on fait des miracles. Quelquefois, on voit des miracles. Mais on n'apprend pas à faire des miracles. Par contre, on peut apprendre le sens des miracles. On peut apprendre à réintégrer quelqu'un qui a été exclu. On peut apprendre à aider quelqu'un à progresser, à avancer lorsqu'il est bloqué. On peut aider quelqu'un à voir plus profondément, grâce à la foi, quelqu'un qui, pour des raisons X et Y, ne se confie qu'aux apparences. Et donc, on peut parfaitement, sur cet aspect-là, on peut continuer et même développer l'œuvre de Jésus. Mais c'est possible comment ? C'est possible parce que Jésus n'a pas été limité par la mort, mais il a traversé la mort pour ressusciter. Et donc cet événement, et surtout toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, tout ce qui ne va pas dans le monde, et il n'y a pas grand-chose qui va bien, sont à vivre avec cette perspective de cette métamorphose. Non seulement il va se passer quelque chose, mais la transfiguration, c'est un geste historique, il est en train de se passer quelque chose. Et du coup, on va essayer de mieux comprendre ce qu'est la résurrection. Alors, on peut d'abord dire ce que ce n'est pas. Et la résurrection de Jésus, ce n'est pas le retour à l'identique, comme Lazare qui a été ressuscité et puis il s'est retrouvé avec Marthe et Marie, et puis quelques années après, il a un peu vieilli et il a fini par mourir. Donc il est revenu à l'état d'où il était. Et toutes les résurrections avant celle de Jésus, dans l'Ancien Testament, avec le prophète Élie, le prophète Élisée, et celle que Jésus a faite avec la fille de Jaïr ou Lazare, sont des retours à l'identique. Avec l'événement de Pâques, et c'est pour ça qu'on a du mal à le définir, il s'agit au contraire d'une formidable progression, d'un perfectionnement qui, dans le cas de Jésus, est un perfectionnement absolu. Et vous voyez que la vie chrétienne, c'est une vie qui progresse, c'est une vie qui se perfectionne. Ça suppose d'avoir de l'ambition. Moi, j'en ai souvent parlé pour la question de Notre-Dame. Vous voyez, restaurer Notre-Dame, ce n'est pas simplement revenir au stade où elle en était avant l'incendie. Non, il faut profiter de ce chantier pour progresser. Elle va être beaucoup plus belle, elle va être beaucoup plus propre, elle va être plus solide, et on y célébrera aussi bien l'office que la messe, et les chemins de pèlerinage seront développés pour permettre une meilleure connaissance de la volonté de Dieu et une meilleure sanctification de tout le peuple chrétien qui vient à Notre-Dame et aussi de tous les visiteurs qui viennent pour la visiter. Il faut, avec Jésus, avoir cette notion de perfectionnement. On nous dit déjà, d'ailleurs, que la question de la métamorphose, c'est déjà au plan naturel une expérience qui est la première que nous vivons. La première métamorphose que nous connaissons, c'est celle de notre naissance. Il faut y penser, hein, la mise au monde d'un enfant est une épreuve redoutable. Alors, tout le monde le sait pour la maman qui enfante, mais surtout pour l'enfant, vous voyez, qui doit sortir d'un état dans lequel il est, dans le ventre maternel, et il doit sortir de ce ventre pour aller affronter le monde. Mais du coup, lui qui vivait avec son tuyau, si j'ose dire, il faut qu'il apprenne à respirer, il faut que ses poumons s'ouvrent, il faut que son cœur s'adapte à la respiration, il faut que sa peau affronte le chaud, le froid, le mouillé, le sec, et il faut qu'il affronte tout un tas de bestioles, tout un tas de microbes, hein, qui sont dans l'air. Oh, il était bien tranquille, vous voyez ? Eh bien, voilà que, et les obstétriciens qui font le métier le disent, vous voyez, naître, c'est déjà l'expérience d'une formidable métamorphose, d'un véritable changement. Mais c'est une épreuve. Nous naissons tous sous le regard, sous la mesure d'une épreuve. Et cette épreuve, elle est liée à la vie. Oui, c'est la naissance qui est une épreuve, ou l'épreuve qui nous permet de naître. Et donc, vous voyez, on peut la redouter, mais il faut l'affronter. Oui, ça vaut véritablement la peine de pouvoir affronter cette réalité et même cette tension. Voyez. Et d'ailleurs, si on regarde le contexte de la transfiguration, juste la scène d'avant, c'est très instructif. À savoir, Jésus vient de confier pour la première fois à ses disciples qu'il va être rejeté, qu'il va être condamné, qu'il va être crucifié, et que le troisième jour, il va ressusciter. C'est à ce moment-là qu'il est transfiguré sur la montagne et que Dieu dit parfaitement, celui-là qui va être rejeté, qui va être défiguré, c'est mon Fils qui est déjà maintenant dans la lumière. Et il faut sortir de l'idée qu'il y aurait un temps de ténèbres où il n'y aurait pas d'espérance et un temps de bonheur où il n'y aurait plus d'épreuve. Non, les deux sont intimement mêlés. Et le but, comprenez-vous, pour vivre sa vie comme Dieu nous donne de la vivre, c'est de chercher comment, au sein même d'une vie éphémère, avec des souffrances quotidiennes, comment la joie, comment la foi, comment la charité sont parfaitement non seulement possibles, mais sont stimulées par cette épreuve, épreuve qui pourtant vient de causes tout à fait différentes. détestable que nous n'aimons pas du tout. Nous réfléchirons à la clé que Dieu ne dit pas simplement celui-ci qui vient de dire qu'il allait souffrir est son fils, mais c'est son fils bien-aimé. Tiens, ça nous rappelle peut-être la scène du baptême au début de l'Évangile. Au tout début de l'Évangile, Jean-Baptiste baptise les pécheurs qui se convertissent et qui attendent que Dieu règne sur le monde. Et voilà que Jésus se mêle avec les pécheurs et que Jésus même reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi ? Il n'a pas péché. Mais il est solidaire de cette condition. Comme disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus, il s'assoit à la table des pécheurs. Il accepte que le monde soit imparfait. Et c'est quand il accepte ce monde imparfait, et c'est quand il en subit toutes les conséquences, que pour la première fois, la voix de Dieu se fait entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Celui qui est le saint et celui qui accepte de vivre dans les conditions de la violence qui était celle de son temps et de la souffrance qu'il a connu depuis son enfance jusqu'à sa crucifixion, celui-ci, c'est bien mon fils qui est lumineux. On peut mener une vie lumineuse alors même qu'on est dans la souffrance. Et le lien qu'il y a entre les deux, c'est certainement l'espérance. Alors peut-être comprenons-nous combien Moïse et Élie sont maintenant présents. Que viennent-ils faire, demandions-nous ? Eh bien, Moïse et Élie vivent selon peut-être trois moments de l'existence qui peuvent nous intéresser. Premier point, Dieu leur accorde des faveurs indiscutables. Deux, ils sont durement contrariés dans leurs projets, aussi bien par leurs ennemis que par leurs amis. Moïse va se battre pour la liberté, Élie pour la fidélité. Trois, ils mènent leur mission jusqu'au bout, même si le terme est plein d'ambiguïté. Après tout, Moïse ne rentre pas en terre promise, Dieu l'enterre lui-même de l'autre côté de la terre promise. Et Élie est enlevé sur un char de feu. Je pose la question, est-ce que c'est un succès ? Oui, c'est pas clair, en tout cas. Oui. Voilà, une vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? Alors, on peut donner quelques détails. Je donne quelques détails, mais attention, avec cette perspective, il faut nous demander si nous nous reconnaissons dans ce schéma. Un, les dons reçus. Alors, évidemment, pour Moïse, l'histoire est très intéressante. Il vit dans un peuple opprimé, asservi par la puissance de Pharaon, donc les conditions sont très négatives, et pourtant, c'est un vrai conte de fées. Il échappe à la condamnation des petits-enfants mâles qui devaient être mis à mort dès leur naissance. Il est élevé à la cour de Pharaon, c'est sa propre mère qui est payée pour le nourrir. En passant, je signale pour rire que c'est le premier cas de salaire maternel dans le monde. C'est une bonne idée quand même. Et il finit par être celui qui doit sauver son peuple. Élie, lui aussi, commence dans une situation de misère, mais il est préservé de la famine et des tas de miracles. Un corbeau vient lui apporter sa pitance tous les matins, et alors que la sécheresse est partout, lui seul est près d'une source qui lui donne toute l'eau qu'il lui faut. Il faut se demander, nous aussi, quels sont les dons que nous avons pu recevoir depuis notre naissance, depuis notre enfance, vous voyez, tout ce qui, tous les charismes, toutes les qualités, au fond, même inachevées, qui nous ont été données. Deuxième temps, évidemment, le temps de l'épreuve. Et Moïse, qui a tant reçu depuis son enfance, doit maintenant affronter Pharaon. Les épreuves vont se multiplier, et encore une fois, pas simplement de la part de ses ennemis, mais de la part de ses amis. On ne le croit pas, on veut le lapider, on veut le mettre à mort, et ça va durer pendant 40 ans, cette histoire-là. Oui. C'est pas, il n'a pas du tout mené une vie facile, et pourtant, à travers cette épreuve, il a véritablement réalisé la mission que Dieu voulait lui confier. Et de même pour Élie. Élie s'est trompé, Élie a viré fanatique en massacrant les 400 prêtres de Baal. Élie n'a pas compris ce que Dieu voulait lui dire dans la voix d'un doux silence. Il préférait les hurlements, il préférait la grande batterie, alors que Dieu voulait lui parler dans le secret du cœur. Et cependant, il a cheminé dans la fidélité pour son Dieu. Alors eux-mêmes, voyez-vous, n'ont pas forcément réussi au sens humain de ce que nous appelons une réussite, mais ils ont allié l'épreuve et la joie de répondre à un appel divin, et ils ont mené leur vocation et représentent toujours, jusque des milliers d'années après, pour nous chrétiens, comme pour les juifs, représentent les bons serviteurs de Dieu. Alors, autre source, vous voyez, l'épreuve d'Abraham. Abraham vit très bien sur ces trois temps. Un premier temps, celui de l'appel, lui qui vient pourtant de la génération de la tour de Babel, qui précède le chapitre 12 de sa vocation, Abraham est comblé, a priori, des bénédictions du Seigneur. Et il répond de fait par la foi. Et ce ne sont pas les épreuves qui vont lui manquer. Là encore, il n'est pas cru dans sa relation avec Dieu, et puis de manière très personnelle, il ne semble pas vraiment récompensé par cette bénédiction. Il est marié avec Sarah, mais ils n'ont pas d'enfants. Et alors, par là même, il ne va pas se décourager. Dans cette persévérance, il va faire preuve de discernement. Mais notons bien qu'il n'agit pas de manière parfaite. Il tâtonne, il progresse, il se trompe, il corrige. Et à travers cet itinéraire compliqué, on nous dit qu'il plaît à Dieu. Il ne fait pas tellement ce qui est parfait, mais il progresse. Et de difficulté en difficulté, de gaffe en conversion, il avance. Et c'est tout le sens de la bénédiction. Et la bénédiction recommandée par le pape François, c'est pour progresser. On part toujours de situations très difficiles, comme on dit irrégulières, et on tâche de progresser pour faire le bien, pour faire ce qui plaît à Dieu, et Dieu nous encourage en particulier dans le don de cette bénédiction pour tous ceux qui cheminent quelquefois de manière très pénible sur le chemin de la lumière. Mais la lumière est au bout du tunnel et c'est déjà là pour les réjouir. Maintenant, au chapitre 22e de la Genèse, dans la traduction juive, on dit que c'est la 10e épreuve dont il a été entraîné. Comment vient la lumière au moment du sacrifice demandé? Le récit est très laconique. Dieu dit à Abraham, « Abraham, Abraham, me voici, dit l'homme, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, et offre-le en sacrifice. » Et Dieu insiste, oui, sur ce lien de bienveillance, ce lien d'affection, vous voyez, entre le papa et le fils, entre le fils et son père. Et il lui dit justement qu'à travers cet amour, il va se passer quelque chose de tout à fait neuf. Voyez, Isaac appelle Abraham « mon papa ». Et Abraham répond toujours « oui, mon fils ». Et ils avancent. Hein, ils avancent d'un même cœur, d'un même pas. Et pourtant, c'est un chemin de croix. Parce qu'au bout, on a l'impression que c'est la mort qui va venir. Et pourtant, ils ne revendiquent aucun droit, mais ils revendiquent une formidable liberté. Que dit Abraham à ses deux serviteurs, qui sont des fainéants et qui ne fichent rien? Parce qu'on nous dit qu'Abraham prit deux serviteurs, et il, Abraham, sella son âne et prépara le bois pour l'Holocauste. Les serviteurs ne servent à rien, ils ne fichent rien, mais ils sont très utiles dans le récit car ils entendent la foi d'Abraham. Abraham a le culot de leur dire « Attendez-nous ici, devant la montagne où Dieu m'attend, l'enfant et moi, nous reviendrons. » Vous voyez, Abraham a toujours été persuadé qu'il ne serait pas séparé de son enfant. Pourquoi? Et d'ailleurs, dans les traditions anciennes, on nous dit que Isaac n'était pas un petit bébé, c'était déjà un grand jeune homme, et que ce grand jeune homme acceptait l'épreuve qui venait de Dieu. Quel était le fondement? Eh bien, d'abord, justement, cette charité. Vous voyez, Abraham aime Isaac, l'enfant de la vieillesse. Isaac aime son père comme il aime sa mère, Sarah. Et cet amour, c'est un sentiment fondamental qui fait que, quoi qu'il arrive, nous ne serons pas séparés. C'est la lecture de saint Paul que nous entendons encore demain. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour notre vie. Alors évidemment, qui croit à la puissance de cette charité? Que veut dire en hébreu le nom de Isaac? Je suis sûr que quelqu'un le sait. Rigolo. Eh oui, parce que quand Dieu a annoncé à Abraham, 90 ans, qu'il allait être papa avec sa femme, qu'on avait 85, vous voyez, l'un et l'autre, ils ont rigolé, ils n'ont pas cru. Ils ont cru que Dieu leur faisait une farce. Vous voyez. Et Dieu leur a dit, ben, puisque vous avez rigolé, vous l'appellerez rigolo. Alors, en français, c'est très amusant. En hébreu, rire, ça se dit Isaac. Alors, Abraham, Isaac. Sarah, Isaac. Vous l'appellerez Isaac. Mais en français, ça veut dire, vous l'appellerez rigolo. Est-ce que l'amour, les uns pour les autres, est-ce que c'est crédible? Mes amis, quand on est éprouvé par la santé, par la fortune, par n'importe quoi, il faut toujours garder l'idée « je suis aimé et j'aime à mon tour ». Il n'y a que l'amour qui peut faire vivre une épreuve qui vous métamorphose vers la vie. La joie qui peut être vécue dans une épreuve, elle vient d'abord de la charité, elle vient de l'amour. C'est capital. On en a un très beau signe, je prends un signe tout à fait contemporain. Vous voyez, on pense à ce pauvre Alexei Navalny qui a été assassiné dans le goulag en Sibérie. De quoi parle-t-on 10 jours après sa mort? Sa mère, sa femme, ses enfants. Vous voyez, voilà une famille où on s'aime. Qu'est-ce qui a fait que dans sa prison, dans son goulag, il était encore la veille de sa mort à pouvoir faire des plaisanteries? Il savait qu'il était aimé. Et même si le pouvoir politique le détestait jusqu'à le tuer, il y avait quelqu'un de plus important qui l'aimait. Oui. Jésus a été rejeté, oui, mais il y avait toujours l'amour de son Père. Oui. J'aime mon Père et mon Père m'aime. Et ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Voyez l'intérêt, je dis bien, à s'inscrire puissamment dans cette relation de charité. Heureusement, il y avait quelques personnes qui l'aimaient, ceux qui étaient là au pied de la croix, sa mère, évidemment, et le disciple bien-aimé, Ah, voilà, nous retrouvons l'idée de cette vertu. Oui, c'est la charité qui permet de vivre l'épreuve de manière positive, de manière vitale. C'est parce que un bébé qui naît, voyez, est aimé immédiatement par sa mère que l'enfant qui vient de naître survit aux terribles épreuves qui sont celles d'un enfant qui accède au monde. C'est l'amour qui le fait vivre. Et c'est l'amour qui fait vivre le monde. Mais on passe souvent à côté. Alors, en plus de l'amour, disons, il y a aussi cette initiative de Dieu qui offre sans condition sa bénédiction, encore une fois, qui est un encouragement en toutes circonstances à progresser vers la lumière. Vous voyez, prends ton fils, celui que tu aimes. Puisque tu aimes ton fils et que ton fils t'aime, eh bien, tu le retrouveras. Tu n'en seras pas séparé. Oui, voilà la promesse de Dieu, voilà la bénédiction. Et ça se fait encore une fois dans un drôle de monde. On a dit qu'Abraham venait de la génération de la tour de Babel, que Moïse était né dans un camp de travail, qu'Élie baignait dans une société pleine d'idolâtrie. Et d'être dans un camp de prisonniers dans le goulag russe, c'est épouvantable. Mais cela, voyez-vous, ces grands témoins nous font entendre jusqu'aujourd'hui la voix des opprimés, et ils sont de véritables visionnaires parce qu'ils ne séparent pas l'épreuve de la joie que Dieu vient leur donner. Une épreuve, ça vise à un perfectionnement, ça vise à être élu. On est éprouvé pour être qualifié, et donc l'épreuve, elle passera. Et l'important, c'est de trouver la possibilité de se faire qualifier. Et Dieu cherche cette qualification, il cherche ce bien. Et quand Jésus nous demande, quand on a été giflé sur une joue, de tendre l'autre, ce n'est pas pour recevoir une deuxième gifle, c'est pour recevoir une réparation. Tous ceux qui partagent la foi d'Abraham, de Moïse, d'Élie, de Jésus, et de tous les fidèles du Christ, croient, mettent leur foi en cette possibilité de réparer. Ce qui a été cassé peut être réparé. Déjà avec la bonne volonté humaine, mais surtout avec l'aide de Dieu et de sa grâce. Cela dit, en réalité, revenons à l'essentiel qui est Jésus. Jésus a été dénommé, notamment dans la lettre de saint Paul, l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement. Voyez-vous, toute cette métamorphose, elle est à vivre dans la foi. Encore une fois, c'est le cas de le dire, les circonstances sont trompeuses, mais attention à ne pas se laisser aller à ces circonstances. Voyez, lui seul, Jésus, annonce sa passion et sa résurrection. Et on l'a déjà dit, c'est parce qu'il lie les deux que Dieu se fait entendre en disant « Oui, c'est bien lui, mon Fils, que j'aime et qui m'aime. » Mais comment Jésus l'a-t-il vécu? Il y a un texte de la lettre aux Hébreux, alors c'est au chapitre 12, verset 2, mais qui est difficile à entendre, enfin, qui est une sorte de paradoxe, et peut-être même de scandale, parce que toutes les Bibles en français, sauf la Bible en français courant, qui n'est pourtant pas la plus exemplaire, mais sur ce cas-là, vous voyez, elle traduit de la manière suivante. Donc, Jésus qui initie et perfectionne la foi, et en vue de la joie, a enduré la croix et siège maintenant à la droite de Dieu. Toutes les Bibles en français, hélas, ont une autre interprétation, et elles disent « Jésus, renonçant à la joie qui lui était promise, a enduré la croix et a fini par s'asseoir à la droite de Dieu. » Attention, mes amis, il faut résister à la tentation de séparer l'épreuve qui nous vient de la méchanceté des hommes et la joie qui nous vient de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est que sa puissance de vie, son amour de la vie, son amour du bien, car Dieu est amour, rentre dans les situations qui apparemment et en réalité sont les plus désespérées. Dieu apporte quelque chose d'inouï dans la misère de nos vies. Et c'est une grâce que Dieu seul peut nous accorder. Elle va contre notre logique habituelle. Et la semaine dernière, dimanche dernier, dans la paroisse voisine, Saint-Germain-l'Auxerrois, où j'officie, il y avait la conférence de carême de Notre-Dame, qui est encore cette année à Saint-Germain, et on nous parlait d'un auteur de la fin du XIXe siècle, qui est Léon Blois, merci. Oui. Et Léon Blois m'a fait comprendre un petit détail que je n'avais jamais compris. Comme quoi, voyez-vous, qu'est-ce qu'on est bête. Oui. Saint Paul nous dit, dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, après l'hymne à la charité, « Nous voyons les choses et les personnes comme dans un miroir. » Et moi, je ne comprenais pas. Pendant 70 ans, presque, j'ai cru que le miroir était pas très bien poli, il était sale, il y avait de la buée, vous voyez, et je ne voyais pas. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Et Léon Blois explique, il dit, on voit tout à l'envers, c'est-à-dire que dans un miroir, ce qu'on croit être à gauche, en fait, est à droite. En fait, dans un miroir, on voit à l'envers. Dieu, on le voit à l'envers. Jésus, on le voit à l'envers. Nos vies, on les voit à l'envers. Les épreuves, on les voit à l'envers. Les miracles, on les voit à l'envers. On ne comprend pas de manière immédiate. Il faut comme retourner la situation. Vous voyez, on dissocie, par exemple, vous voyez, ceux qui dissocient l'épreuve et la joie voient dans le miroir. Ils voient tout à l'envers. Si on veut voir à l'endroit, il faut associer l'épreuve et la joie comme l'ont vécu Abraham, qui a toujours pensé retrouver son fils, comme Moïse, qui a affronté les puissances de Pharaon et qui est arrivé, qui a mené son peuple en terre promise, Élie, qui a cru à la fidélité dans un moment où tout le monde était païen et idolâtre et qui a ramené son peuple à la foi. Cela, grâce à la foi, grâce au sacrement, ont su retourner la vision dans le miroir et ils ont vu les choses à l'endroit, comme Dieu donne de les voir. Eh bien, voyez-vous, je crois que notre carême peut être un entraînement pour revoir vraiment les choses à l'endroit. Et notamment, je termine par là, sur les trois exercices classiques du carême, la prière, le jeûne et l'aumône. On y voit souvent de l'ascèse, on y voit des privations. Oui, il y a cet aspect-là, un moment éprouvant. Eh bien, la grâce de Dieu fait qu'ils sont appelés, ces trois exercices, à se retourner de manière positive. La joie de donner, la joie de retrouver la simplicité, la joie de retrouver la bonne et la juste relation avec autrui. On croit se priver, mais non, on reçoit. Mais encore faut-il risquer l'expérience, risquer la métamorphose, et pas par ses propres forces, uniquement, comme on dit à la messe, on va le dire ensemble, parce qu'on ne le dit jamais ensemble à la messe, par lui, avec lui, et en lui. Avouez que ça fait du bien. Vous voyez, c'est le meilleur moment de la messe, enfin pour le moment, c'est le meilleur moment de la messe, c'est quand je dis ces trois invocations. Oui. Alors, la règle liturgique fait qu'il n'y a que le prêtre qui la prononce à voix haute, mais j'espère que dans notre cœur, tous les fidèles le vivent, le souffle est là pour leur donner cette grâce et que par la puissance de la foi et des sacrements, nous allons tous passer d'une vision à l'envers à une vision à l'endroit. Merci pour votre attention. Là, j'ai une messe à 5 heures, je vais à l'hôpital dès 15h20. Alors, Merci à vous. Alors, la semaine prochaine, on fait Moïse avec le décalogue et les vendeurs chassés du temple. Et la folie de la croix chez Saint Paul. Très beau menu.